Auditeurs, auditrices de la web radio à Wavy Info, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on en parlait. Nous avons le plaisir d'explorer une œuvre captivante qui transcende les frontières culturelles et géographiques, le livre Lomé Paris, une série photographique signée par le talentueux photographe français Bernard Brisé. Réalisée lors de deux résidences artistiques à Lomé, cette série est le fruit d'une collaboration enrichissante avec l'association Fil Bleu, la Commission nationale de la francophonie et l'Institut français du Togo. À travers son objectif, l'artiste nous invite à un voyage visuel fascinant entre ces deux capitales, révélant les nuances et les contrastes entre les environnements urbains et les réalités quotidiennes de chaque ville. Dans cette interview, nous plongeons, et oui, dans le processus créatif derrière cette œuvre exceptionnelle et découvrons aussi les défis rencontrés, explorant les inspirations qui ont façonné Lomé Paris et surtout la sortie de ce livre ce samedi 14 septembre à l'Institut français de Lomé. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue.
Sisan, un bébé Ninika. Sisan, coucou.
Un morceau spécialement choisi par notre invité pour vous souhaiter également la bienvenue, chers amis auditeurs, auditrices de la web radio Arrivée Info. Et vous êtes les bienvenus dans Si on en parlait de ce vendredi. Nous vous espérons en forme. Alors, nous allons donc démarrer notre entretien avec l'invité de ce soir. Bonsoir, cher invité.
Bonsoir, Miss Darlix.
Comment est-ce que vous allez?
Très très bien et très heureux d'être en votre compagnie ce soir.
Ça fait également plaisir. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Oui, très rapidement. Je m'appelle Bernard Brisé, donc je suis photographe français professionnel, originaire d'une petite ville de 25 000 habitants à côté de Bordeaux, qui s'appelle Lormont. Et j'ai la chance de voyager assez régulièrement sur le continent africain et tout particulièrement au Togo depuis une vingtaine d'années pour des raisons à la fois humaines, affectives. C'est, voilà, je crois beaucoup aux rencontres et aux amitiés comme étant des éléments déclencheurs de projets. Et voilà, donc je présente ce samedi 14 septembre à l'Institut français du Togo mon dernier ouvrage qui s'intitule Lomé Paris et qui est le fruit de deux résidences artistiques et d'une exposition qui avait lieu en novembre dernier à l'Institut français.
Alors, c'est bien évidemment dans ce cadre-là que l'on vous reçoit ce soir pour nous parler de votre livre, de votre série photographique intitulée Lomé Paris. Alors, dites-nous tout d'abord, quelle est l'origine de ce projet? Qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cette série photographique?
Alors, le projet est né il y a un peu plus de 2 ans. Suite à une première résidence, j'ai été invité par l'association Fil Bleu et la Commission nationale de la francophonie pour faire un travail photographique en ayant une carte blanche absolue. Aucun thème ne m'a été imposé et j'avais envie depuis très longtemps d'aborder la thématique du regard porté sur l'autre à travers le prisme de nos histoires communes et en particulier les histoires, les liens historiques qui unissent le Togo à la France, l'aborder sur différents aspects. Parce que la photographie, l'image fixe a cette capacité d'avoir, de proposer pour celui qui en prend le temps, plusieurs degrés de lecture. Et j'avais envie d'aborder différentes questions comme Paris étant, pouvant être un mythe, un objet de désir, une destination rêvée. Paris, c'est aussi évidemment la Tour Eiffel. C'est pour ça que le leitmotiv de toutes mes photographies, c'est cette image en arrière-plan, qui est la Tour Eiffel à chaque fois. Parce que la Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris, mais c'est aussi le symbole de la France. Et pour moi, c'était important de faire une référence à la présentation officielle de cette Tour Eiffel en 1889 lors de l'exposition universelle où au pied de cette même Tour Eiffel sur les champs de Mars étaient exhibés des villages indigènes en particulier africains mais pas seulement c'est ce qu'on a appelé après des zoos humains et où on associait cette image exotique de l'Afrique et le symbole de la technologie occidentale qui était la Tour Eiffel. Et dans ce travail, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs aspects, mais il y a celui-ci qui consiste à renverser ce paradigme, c'est-à-dire de faire du sujet de l'Africain, du Togolais, le sujet principal de la Tour Eiffel, devient un élément du décor, devient un élément exotique, en sachant que cet exotisme est forcément un peu illusoire, puisque l'exotisme, historiquement, le terme exotisme fait référence plutôt à une destination un peu qui est associée avec la notion de plaisir, de vacances, et alors que souvent, pour une personne, un migrant, qui soit d'origine africaine ou pas, venir en Europe, ce n'est pas pour du plaisir ou des loisirs ou des vacances, c'est pour améliorer sa vie et permettre aux siens de mieux vivre. Voilà, c'est souvent plus une obligation existentielle qu'un choix. Voilà. Donc il y a cette référence-là. Il y a aussi la référence à la photographie africaine de studio. On a écouté Salif Keïta à l'instant. Il y a un homonyme à lui, un très grand photographe malien qui s'appelle Saïdou Keïta, qui est un très grand portraitiste, aussi un photographe burkinabé, Sori Sanlé, que j'apprécie tout particulièrement, qui depuis, la fin de la colonisation, avait des studios dans les grandes capitales africaines. Et la particularité de ces photographes, il y en avait bien d'autres, je vous en cite deux, mais il y en a beaucoup d'autres, photographier leurs modèles, qui étaient aussi des clients, devant des fonds qui faisaient peindre et qui, oui, recomposait un décor qui avait pour vocation d'élever socialement la personne, de la gratifier, d'avoir une image gratifiante de la personne photographiée. Mmh. Et j'ai toujours été subjugué par ces fonds. Il y a notamment des photos que j'ai en mémoire où on voit un homme en costard avec une valise et derrière lui, c'est un fond avec un avion sur un aérodrome et comme s'il allait prendre l'avion, vous voyez. Et ça, je trouve ça très intéressant au niveau sociologique déjà et au niveau même de ce que peut générer une photographie par l'apparence, par le monde de l'apparence et de l'illusion. Donc dans mon travail, il y a aussi ça. C'est-à-dire cette image de Paris, elle est en arrière-plan comme si c'était un fond. En fait, c'est une photographie qui apparaît en surimpression, mais elle est là comme si c'était un fond, en fait, qui était posé dans la rue, sur un mur, accroché au mur. Parce que chaque personne que j'ai photographiée est photographiée devant un mur. Parce que ce mur, c'est à la fois une cloison, quelque chose qui sépare deux mondes, mais c'est aussi un espace de projection. Ça permet d'être comme un fond d'écran sur lequel je peux faire apparaître cette vision carte postale de Paris et de la Tour Eiffel.
Vous avez parlé d'une collaboration avec l'association Fil Bleu, la Commission nationale de la francophonie, l'Institut français du Togo.
Tout à fait.
Dites-nous alors les principaux objectifs en collaborant avec cela.
Bon, l'idée de départ, c'était vraiment de faire une création sur place qui aborderait des thématiques liées à la photographie, mais liées aussi aux histoires de nos deux pays, qui ferait un lien. Après, l'Institut français a permis d'avoir des moyens aussi d'exposer ce travail, parce que c'était important aussi de restituer ces photographies dans un environnement qui soit adapté, qui permette d'accueillir du public. Ouais. Et donc c'est pour ça que lorsque la première résidence est terminée, l'association Fil Bleu et la Commission nationale de la francophonie ont essayé d'impliquer, ont parlé de ce travail à l'Institut français, et notamment à son ex-directeur là, qui a terminé sa mission au mois d'août, Alain Layron, qui a été sensible de suite au projet. Ce qui m'a surpris au départ, pour être franc, ça m'a surpris, parce que certains de mes clichés sont plutôt assez critiques sur ce qu'a été la France-Afrique et le rapport à la colonisation. Certains même volontairement, parce que c'est un travail assez allégorique que je fais. Donc il y a des images qui sont... Il n'y a pas de violence visuelle, mais il y a une violence latente dans ce qu'elles expriment. Et donc j'ai été surpris, et ça m'a fait plaisir même, que à la fois le directeur de l'Institut français, directeur délégué de l'époque, et même l'ambassadeur, puisque rien ne se fait sans l'accord de l'ambassadeur, valide l'idée qu'on puisse montrer ces photos en grand format dans les jardins de l'Institut français. Il y a 20 ans de ça, je ne suis pas sûr que ça aurait pu être possible. Et je me dis, bon, les choses changent, et dans le bon sens, puisqu'il y avait même une photo que moi-même, je m'étais auto-censuré. Il y a une photo où il y avait marqué, alors c'était un montage, bien sûr, mais où il y avait marqué « La France dégage », liée à la réalité des pays sahéliens notamment. Et cette photo, moi-même, je m'étais censuré, je m'étais dit « Bon, celle-là, je ne vais peut-être pas la proposer pour l'exposer dans le jardin de l'Institut français qui est situé juste en face de l'ambassade.
Oui. »
Et bien, le directeur m'a dit, il avait vu sur mon site internet, il m'a dit, mais Bernard, pourquoi dans ta sélection, tu n'as pas mis cette photo? Je trouve qu'elle est bien, il faut la mettre. Ah, j'ai dit, mais c'est génial. Et du coup, on a mis cette photo. Et dans le livre, il y a deux photos qui expriment, qui évoquent ça, qui évoquent aussi que les relations entre la France et l'Afrique ont souvent été douloureuses. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et c'est ce qui permettra sans doute, et je l'espère, moi je suis confiant là-dessus, justement par le biais du volet culturel, par le biais de la francophonie, à mettre en place d'autres types de rapports et qui soient beaucoup plus constructifs.
Alors, vous avez parlé de résidence artistique. Pour nous qui ne sommes pas du domaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'une résidence artistique?
D'accord. Une résidence artistique, c'est une immersion en fait. C'est une immersion dans un espace-temps donné. Par exemple, moi, comme je souhaitais travailler avec des modèles ou des connaissances qui accepteraient de poser pour moi, il fallait que je puisse côtoyer ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sur place. Donc, une résidence, ça va être un moment privilégié où on peut être en immersion avec les éléments qui concernent la création, en fait. Moi, je suis photographe. Je voulais faire un travail dans les rues de Lomé avec des Togolais. Ben, je ne pouvais pas faire ça depuis Bordeaux. Donc, une résidence permet d'être invité sur un temps donné pour travailler, en fait. Alors, c'est très agréable. je vous l'accorde. En tout cas, pour moi, je le vis très, très bien. Mm-hmm. J'adore ça, en fait. C'est pas une question d'être invité, parce que ça, les moyens sont évidemment différents d'une institution à l'autre. Mm-hmm. Et moi, ça me dérange pas d'investir sur mon travail non plus, mes deniers personnels. Mm-hmm. Mais après, quand le projet se met en place et qu'on voit que ça se concrétise, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement.
C'est gratifiant.
Ouais, c'est gratifiant. Et puis, mm-hmm. c'est des rencontres. Moi, c'est ce que je dis toujours. On ne fait jamais rien tout seul. Et c'est toujours... Il y a toujours une interaction avec une ou plusieurs personnes qui permet d'avancer, de concrétiser des projets. Mmh. Et surtout en photographie, vous avez besoin, enfin moi qui suis portraitiste, j'ai besoin de photographier des personnes, des êtres humains. Donc il faut bien que j'aille à leur contact, que je leur expose la nature de mon travail, que je leur explique le pourquoi, le comment. Et voilà, donc humainement, c'est d'une richesse extraordinaire. Mmh. Et moi, ce qui m'a plu, et je tiens vraiment à le dire et à le redire, c'est l'interaction que j'ai eue avec les personnes. La plupart des gens que j'ai photographiés, c'est des gens que je connaissais, mais d'autres pas du tout. D'autres sont des gens qu'on m'a présentés et avec qui j'ai échangé, je leur ai exposé la nature du travail, ils ont adhéré au projet. Et le fait que ce livre, il a été publié, j'ai omis de vous le dire, mm-hmm. il a été publié par un éditeur bordelais, il est publié par un éditeur bordelais qui s'appelle les éditions Le Bordelot. Mm-hmm. Et le livre, il a été imprimé parce que pour des questions de calendrier et pour le faire parvenir en grande quantité ici à Lomé, depuis il a été imprimé en Espagne par un éditeur bordelais et il a été envoyé par avion à Lomé. Donc il y a tout un circuit, tout un planning à faire, et du coup, étant moi, j'aime bien anticiper, mm-hmm. j'aime pas trop travailler dans l'urgence, chacun ouais. son truc, moi j'aime bien préparer tout ça. Donc le livre, il a été imprimé et livré au mois de fin mai, vous voyez, et on est en septembre. Mm-hmm. Plusieurs opérateurs culturels sur Bordeaux, mm-hmm. ma ville natale, où je connais quand même pas mal de monde,
oui.
m'ont dit, mais Bernard, il faut qu'on monte ton livre, il faut mm-hmm. le présenter.
Ici, ouais.
Il faut le présenter ici, maintenant il vient de sortir. Je leur ai dit, non, ce livre, il sera présenté en premier à Lomé. Mm-hmm. Et seulement après, même si c'est dans 3 mois, 4 mois, seulement après, on fera des expos et on le présentera ici, parce que je veux réserver la primeur, même si ça n'a aucun... C'est pas pour des raisons commerciales. Mmh. Mon livre, c'est un livre intimiste, il va pas... C'est pas ça qui va chambouler le monde. Mmh. Hein. Mais c'est une question de principe. Une question de principe pour moi, c'était une question de... Humainement, il était important, par rapport à la confiance qui m'a été accordée, mmh. Notamment de la part des modèles, parce que c'est pas évident mmh. de se laisser photographier, d'accepter d'être photographié. Après, ça va être exposé, ça va être dans mes livres. Même si on joue un rôle, même si c'est une mise en scène, c'est quand même son image. Et la plupart, il y a des modèles professionnels ou semi-professionnels, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs. Et il me semblait important, en titre de reconnaissance, c'est une façon de leur dire merci à toutes et à tous de le présenter en primeur et à Lomé.
Alors, cette résidence artistique à Lomé, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, peut-être, une journée ? Raconter comment ça s'est passé une journée pour vous.
Après, il n'y a pas de journée type. Mm-hmm. Mais disons, généralement, il oui. y a une partie qui va être d'abord de contact, de prise de contact, mm-hmm. À travers les connaissances, mes amis, le réseau que je peux avoir ici sur Lomé, déjà pour essayer de trouver des modèles, des figurants, des personnes qui vont accepter d'être photographiées. Mm-hmm. Ensuite, il va y avoir une phase de reconnaissance du lieu que je vais utiliser, sachant que la contrainte, mais que c'est une contrainte que je me suis imposée moi-même, c'est de travailler en lumière naturelle. Donc ça veut dire que, connaissant la lumière et le soleil qui est présent sur Lomé, mm-hmm. moi généralement je travaille le matin, les prises de vue se font le matin très tôt ou entre 16h30 et 18h. Parce qu'entre-temps, hormis sur une journée grise et pluvieuse, où là je peux travailler toute la journée, en règle générale, quand le soleil tape fort, mm-hmm. ça donne des ombres disgracieuses et ce n'est pas l'esprit esthétique que je recherche. Donc voilà, mais je passe beaucoup de temps, en fait on passe beaucoup de temps, quand on est photographe, on passe beaucoup de temps en logistique, mm-hmm. entre guillemets, hein, c'est-à-dire en préparatif pour trouver les lieux, trouver les modèles, mm-hmm. trouver les accessoires. Et la partie purement prise de vue est relativement courte à chaque fois. Donc généralement une journée c'est ça, c'est aussi passer du temps à discuter, à évoquer, mais c'est aussi vivre la vie, aller manger un bon plat, un bon foufou, c'est, ou le gombo que j'adore, voilà, moi je suis sensible à tous les aspects de la culture togolaise ou des cultures en général.
En parlant de culture, vous avez tout à l'heure mentionné des plats locaux. Entre guillemets, vos plats préférés sont lesquels? Comme ça, prochainement, quand vous arrivez à Wévi, on va essayer de vous en faire peut-être un.
Ah non, mais moi, il n'y a même pas de doute. Moi, il y a un plat qui me rend complètement hystérique. Et c'est pénible parce que je ne sais pas le manger en plus, j'en mets partout. C'est le gombo.
Le gombo
avec les petits morceaux de viande de bœuf et les petites pinces de crabe, ça me rend complètement dingo.
Ok, d'accord.
Mais je ne devrais pas le dire parce que je vous dis, quand je le mange, c'est un spectacle qui est assez pitoyable parce que j'en mets partout. Je me tâche, le t-shirt, le pantalon, enfin c'est une catastrophe.
Alors, nous passons donc de la nourriture, nous parlons maintenant des lieux. Vous en avez parlé brièvement, des lieux, des sujets. Récemment, quand on était donc à l'Institut français, on avait vu vos tableaux. Je pense bien, on a vu un chef traditionnel avec des enfants tout autour. Si je me rappelle bien, un tableau qui m'a vraiment marqué. Dites-nous comment cette image-là ou carrément l'inspiration vous est venue.
Alors, dans toutes les photographies racontent un petit peu quelque chose. Donc, celle dont vous parlez, c'est un roi traditionnel. En tenue traditionnelle, accompagnée je crois qu'il y a deux jeunes filles de mémoire qui ont les tenues aussi traditionnelles avec je sais pas comment on peut dire ça, c'est pas un maquillage, c'est une décoration corporelle appropriée. Après, moi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer une idée, un concept de façon très symbolique. Donc c'est le roi traditionnel, pour moi il représente la présence précoloniale, si vous voulez. C'est l'autorité spirituelle, traditionnelle, voire même religieuse, dans un temps donné, même si les rois existent toujours, ils n'ont plus la même autorité qu'ils pouvaient avoir avant, ils en ont toujours une. Et là, ça me semble intéressant de faire ce lien, de jouer à la notion d'espace-temps et de montrer ce roi qui domine Paris. En fait, il est derrière lui, il est comme s'il était sur le toit d'un immeuble, et on aperçoit Paris qui est loin derrière lui. Voilà. Et c'est pour faire ce rapport, c'est un clin d'œil en fait à l'histoire et au fait que la colonisation est passée par là, la France-Afrique est passée par là, mais que ce roi aux valeurs ancestrales est toujours là, il est toujours présent.
Alors, nous revenons donc par rapport à cette série photographique qui se fera demain samedi, donc à l'Institut français du Togo. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner un peu ou parler un peu de quelques images là ou des séries d'images spécifiques dans votre livre, en tout cas en attendant demain.
Oui. Oh, mais il y en a plusieurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a différents volets. Il y a des volets un peu plus gais, marrants, d'autres un peu plus tragiques. Voilà. Je vous en donnais. Il y a plusieurs photos que j'aime bien. Il y en a une que j'ai réalisée avec un mannequin, une mannequin togolaise, donc qui est dans une rue. On la voit habillée avec une tenue comme un défilé de mode, en fait. C'est comme si elle fait un défilé de mode, avec une petite fille qui la regarde, qui est assise par terre et qui la regarde avec des yeux émerveillés. Et derrière, sur un morceau de mur qui est plus ou moins, en lambeaux, mur qui est très abîmé, apparaît une image de la Tour Eiffel. Voilà. Donc cette image, je l'aime bien, parce que Paris fait partie des capitales de la mode. Et on voit, c'est comme si cette personne, en fait, rêver un jour d'aller faire un défilé à Paris alors qu'elle est dans une rue un petit peu malmenée de Lomé. Voilà. Par exemple, ça en est une. Une autre photo que j'aime bien, c'est une photo dans un village où j'ai photographié un homme avec un vieux fusil en bois, avec un enfant à côté de lui qui est presque au garde-à-vous, et où en fait on ne sait pas si c'est un chasseur ou on ne sait pas si c'est quelqu'un qui en fait veut libérer son pays d'une quelconque oppression ou d'une quelconque présence non voulue. Et le fait si j'avais photographié cet homme tout seul, comme ça, avec ce petit garçon à côté de lui, avec son fusil, un air un peu agressif, sur un mur vide, on peut penser que voilà, c'est quelqu'un qui va à la chasse ou qui est en colère et qui a sorti son arme parce qu'il y a un voleur qui s'approche. Mais le fait de l'associer avec une image de la Tour Eiffel derrière, de suite, ça amène un autre champ du possible au niveau de la signification. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Mm-hmm. C'est jouer avec les apparences et cet espace-temps, en fait. Parce que cette personne n'est pas réellement devant la Tour Eiffel. Mais le fait de l'associer, ça donne à l'image une nouvelle... Ça crée une nouvelle histoire, en fait, une nouvelle valeur narrative à l'intérieur du cliché. Mm-hmm. Et ça peut permettre différents degrés de lecture. Voilà. Après, il y a des... Bon, je vous dis, il y en a beaucoup, d'images comme ça qui m'intéressent. J'ai photographié une personne âgée avec des médailles. Voilà.
Là, ça va carrément dans le domaine sportif.
Non, c'était pas des médailles sportives, c'était des médailles d'anciens combattants.
Ok, voilà, d'accord.
Et donc là, ça fait carrément référence aux tirailleurs africains, même si malheureusement il n'y en a plus beaucoup de vivants.
Oui.
Mais parce que moi, je fonctionne beaucoup par allégorie, c'est-à-dire que ce monsieur qui a les médailles, c'est pas forcément réellement un ancien combattant. C'est ce qu'il représente qui m'intéresse.
C'est ça.
Et cette image donc de cette personne âgée assise dans une rue de Lomé avec ses 3 ou 4 médailles qu'il arbore fièrement, et avec cette tour Eiffel derrière, ça signifie quelque chose. Ça veut dire que ces tirailleurs-là ont été oubliés. Ces tirailleurs-là, ils ont été niés pendant très très longtemps. Et leurs enfants, leurs petits-enfants aussi. Et alors qu'ils étaient prêts, et beaucoup ont donné leur vie pour la France, alors qu'ils n'étaient même pas français. Ils étaient, à l'époque, ils étaient des territoires colonisés. Donc voilà, c'est tout ça en fait, que tous ces sujets que j'essaie d'aborder de façon vraiment allégorique, sans prétention. Mais voilà, c'est une façon de dire... On a une histoire commune, il y a des douleurs, il y a des choses difficiles, puis il y a des choses qui peuvent être plus gaies. J'ai photographié un jeune Togolais que j'aime beaucoup, et voilà, qui adore, qui est un séducteur digital, et je l'ai photographié en train, il fait un selfie, il a 2 jeunes filles à côté de lui qui ont des corps... de très galbé, avec des formes, on sent qu'il est heureux d'être avec elle. Là, il les enlace. Et ils font un selfie tous les 3, et sur le mur, évidemment, quand j'ai fait la photo, il n'y avait rien. Et moi, j'ai fait apparaître l'image de Paris comme s'ils étaient en train de faire un selfie devant la Tour Eiffel. Et ça, c'est gai, c'est joyeux, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que cette vision carte postale de Paris, elle représente toujours une part de rêve pour beaucoup d'Africains et pour beaucoup de Togolais.
Oui.
Toujours. Et moi, j'ai même, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure,
oui,
même dans les pays du Sahel, où il y a ce rejet de la présence militaire française à juste titre et pour de nombreuses raisons, si vous demandez individuellement à ces jeunes qui brandissent les drapeaux russes ou qui brandissent les pancartes « La France dégage », vous leur dites « Demain, on t'offre un billet pour que tu ailles faire tes études à Paris », mais ils vont dire oui de suite. Donc c'est ça qui est complexe et qui est intéressant d'un point de vue sociologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette idée que rien n'est figé. En fait, notre culture, elle n'est pas figée, notre identité, elle n'est pas figée. Et il faut savoir toujours se nourrir de ce qu'on côtoie, des environnements, des personnes que l'on côtoie. Et qu'au final, c'est comme ça qu'on grandit.
Basakuta mwe, basakuta la wole.
Nous sommes de retour donc dans les studios de la web radio à Revue Info et nous sommes en présence de notre invité du soir, Bernard Brisé. Il est photographe professionnel et il présente donc son livre, une série photographique, demain samedi 14 septembre 2024 à l'Institut français du Togo. Il nous fait l'honneur donc de venir nous parler un tout petit peu de cette présentation et bien sûr de ce qu'il fait comme travail, bon, comme je l'ai dit, photographe professionnel. Alors, cher invité, nous allons continuer. Nous avons un peu brossé la résidence artistique faite à Lomé. Nous avons parlé du choix, de comment se fait le choix des mannequins et autres. Maintenant, parlez-nous un peu de votre technique de photographie. Est-ce qu'on peut savoir ou comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ces techniques-là et le style particulier que vous utilisez?
Oui, avec grand plaisir. Il n'y a pas de secret particulier. Mm-hmm. Donc moi, si vous voulez, je travaille avec un appareil photo moyen format numérique, ce qui permet déjà d'avoir une qualité de résolution qui offre des restitutions et des tirages en grand format, ce qui était le bon choix finalement, puisque lors de l'exposition l'an dernier, on avait fait des grands tirages, une impression sur vinyle en grand format pour les présenter en extérieur dans les jardins de l'Institut français. Mais après, il y a deux éléments. Le premier, c'est la prise de vue en tant que telle, c'est-à-dire avec les modèles, devant les murs que je souhaite photographier en lumière naturelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est ce qui induit, parce qu'en photographie, le plus important, enfin, les gens qui sont un peu néophytes, photographie, l'étymologie du mot, c'est écrire avec la lumière. Mm-hmm. Donc l'élément le plus important en photographie, quel que soit le type d'appareil utilisé ou de technique utilisée, c'est une bonne gestion, une bonne analyse de la lumière. C'est pour cette raison qu'ici, face à la dureté du soleil, je travaille déjà sur des temps bien précis, des moments de la journée bien précis. Donc déjà ça, c'est un élément de technique déjà. Mm-hmm. C'est-à-dire éviter les ombres portées, éviter les ombres trop dures et favoriser plutôt une lumière assez équilibrée et assez harmonieuse. Donc je photographie mon travail, moi c'est un travail de mise en scène. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'essaie de restituer, de créer ou de m'inspirer de scènes réelles et de les retranscrire par le biais d'une forme de théâtralisation. Mm-hmm. Donc je demande au modèle de jouer un rôle, je leur dis voilà, il faut se positionner de telle ou telle façon, avoir telle ou telle expression de visage. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail en amont de dialogue, de concertation qui est très important. Mm-hmm. Donc la prise de vue se fait de cette façon-là. Et ensuite, en post-production, j'intègre sur ce mur une image de la Tour Eiffel. Et là, c'est un travail de post-production, donc c'est-à-dire sur l'ordinateur, sur Photoshop. Je vais détourer le contour des personnes pour faire apparaître sur le mur, avec un jeu de transparence et de calque, faire apparaître l'image de la Tour Eiffel sur le mur, qui va apparaître du coup comme si c'était une affiche ou si c'était une image projetée sur le mur. Parce que les outils d'aujourd'hui permettent d'avoir une certaine précision. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est même si des personnes l'ont cru, des personnes croyaient vraiment qu'il y avait ces peintures ou que cette photo était affichée sur le mur. Mmh. Voyez, mais moi, c'est pas mon but, c'est pas important que ça paraisse vrai ou pas. Ce qui m'importe, c'est la coexistence de cette Tour Eiffel sur ce mur avec ces personnes devant. Mmh. Voilà. Et donc il y a un magazine d'ailleurs qui m'avait contacté, qui avait publié un portfolio, un très bon magazine qui s'appelle European Photography, qui fait 4 numéros par an, c'est un livre d'art vraiment, et ils avaient vu cette série, ils m'avaient dit oui, ça nous intéresse, et donc ils m'ont demandé des fichiers en haute résolution pour le publier, ce qu'ils ont fait avec un petit texte en anglais tout ça, mais je me suis rendu compte qu'à la fin, en fait, le rédacteur en chef de la revue, il me dit, mais comment vous avez fait pour trouver tous ces murs à Lomé avec une peinture de la Tour Eiffel? J'ai dit, mais comment ça? Mais il dit, mais oui, quand même. Ouais, je ne savais pas qu'il y avait autant de Tour Eiffel peintes sur les murs de Lomé. J'ai dit, mais non, mais elles ne sont pas peintes sur le mur de Lomé, en fait. Ah, il me dit, ah bon? Et j'ai senti qu'il était un peu déçu. Mmh. Bon, ça ne l'a pas empêché quand même de valider et de publier le travail. Hein. Mmh. Mais je pense que ça l'a un peu déçu. Mmh. Il s'imaginait que, en fait, les représentations de la Tour Eiffel étaient réellement peintes ou graffées ou affichées sur les murs.
Mmh. Alors, nous parlons œuvres. À part cette œuvre, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes que vous avez eu à faire déjà?
Pour cette série, vous voulez dire?
Pas forcément. Vous êtes photographe professionnel, oui, vous avez touché d'autres thématiques.
Oui, oui.
Parlez-nous-en.
Il y en a eu pas mal quand même depuis ces dernières années. Bon, mon premier contact avec, on va parler de ma relation affective avec le Togo et Lomé. Mm-hmm. Il y a une vingtaine d'années, j'étais venu faire un travail donc, sur les Abinos, les Guélés aussi. Et un travail qui avait été publié par les éditions L'Harmattan. Déjà avec un texte de mon ami acolyte, j'ai oublié d'en parler, je suis impardonnable, Kani Alem, qui a écrit d'ailleurs aussi un très beau texte dans le livre que nous allons présenter demain. Mm-hmm. Et déjà, il y a 20 ans, plus de 20 ans, on avait collaboré ensemble sur un projet autour des personnes albinos, et j'avais travaillé sur Lomé et sur les villages alentours. À l'époque. Mm-hmm. C'est un travail à noir et blanc, complètement différent, en argentique. Mais là, ça avait été déjà une belle expérience humaine à l'époque. Et ensuite, bon, je travaille aussi avec le Bénin voisin, puisque je suis représenté par une galerie à Cotonou, qui s'appelle la Galerie Zato, avec qui je travaille depuis 2 ans sur des projets en lien avec l'histoire de la reine Tassiangbe, qui a été la seule reine du royaume du Dahomey, qui a été effacée des livres d'histoire et même des palais royaux. Et depuis quelque temps, elle commence à être réhabilitée. Oui. Elle a une histoire particulière puisqu'elle a été, elle était la sœur jumelle du roi Akaba. Et au décès de celui-ci, les conseillers du roi lui ont demandé de se travestir en homme pour faire croire que son frère était toujours vivant. Et il y avait une guerre, il y avait un conflit contre le royaume d'Ouémé. Mmh. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a fait tellement brillamment qu'après, elle a affirmé qu'elle était une femme. Et pour les yeux du grand public, de la population, ça a été une grande surprise. Mmh. Elle a régné 2 ou 3 ans, je crois, avant d'être à son tour chassée par un demi-frère ou un cousin. Mmh. Enfin, mais en tout cas, c'est un personnage très important. Et donc, je fais un travail qui me permet d'aborder aussi la place de la femme dans les sociétés contemporaines. Et le rapport au pouvoir et le rapport aussi aux violences qui sont faites aux femmes. Mmh. Voilà, c'est un travail qui permet aussi. Moi, j'aime bien partir d'un fait singulier et essayer de tendre vers l'universel. Voilà.
On a fait notre devoir, on a fait quelques recherches par rapport à vos œuvres, comme je l'ai dit. Pourquoi cette question n'est pas anodine. Mmh. On a vu un de vos livres, je ne sais plus trop, mais intitulé Le regard.
À 4 yeux.
À 4 yeux. Mmh. Voilà, et c'est écrit Bernard Brisé, Derek Munn. Mmh. Quelle est l'histoire derrière cette œuvre-là?
Alors, Le regard à 4 yeux, c'est un travail assez. Enfin, qui est assez récent. C'est un travail sur le double portrait, en fait. Et c'est un travail en noir et blanc. Et où l'idée a été d'associer 2 personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais vues, et qui acceptent de poser torse nu et qu'on associe leur regard. Et comment, à travers l'image photographique, deux regards, c'est pour ça que le livre s'appelle Le regard à 4 yeux, parce qu'en fait, il n'y a plus qu'un seul regard, mais il y a 4 yeux, en fait, qui ont une interaction entre eux, peuvent évoquer et peuvent dire beaucoup de choses, juste par le jeu du regard et de l'association ou de la confrontation aussi, ça peut être de cet ordre-là, entre 2 visages et 2 expressions. Et donc Derek Munn, vous le citez, c'est un écrivain qui est anglais, qui est francophone puisqu'il écrit parfaitement en français. Mais c'est un romancier anglais qui habite sur Bordeaux et qui a écrit un très beau texte pour cet ouvrage. Voilà.
Alors, s'il nous écoute, on lui passe en tout cas le coucou.
Tout à fait.
Alors, nous continuons maintenant, nous parlons c'est demain, le grand jour. Dites-nous, tout est sans prêt?
Oui. Après, c'est la volonté, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit un moment de partage, un moment de convivialité. Mm-hmm. Justement, arriver à désacraliser aussi les lieux, c'est important. Parce que je pense, vous savez, c'est universel, hein, malheureusement. Vous voyez, en France, comme ailleurs, je pense que peu de gens qui ne sont pas dans ce milieu vont franchir les portes d'une galerie d'art. Ça reste quelque chose où ils vont se dire bah, c'est pas ma place, ou j'ai pas les connaissances ou la culture suffisante. Donc il y a vraiment une volonté de rendre accessible, de sensibiliser les gens aux arts, au pluriel, hein, dans toute leur forme d'expression. Mmh. Et c'est pour ça que moi j'invite vraiment tous les gens à venir dans les jardins de l'Institut français. Certes, c'est une institution, certes, ça peut paraître comme ça un peu imposant si on n'a pas l'habitude, mais on espère en tout cas que ça sera un moment de partage. En tout cas, la plupart des modèles qui ont travaillé sur ce projet seront présents. Là. Les différents partenaires, quand je parle de partenaires, ce n'est pas forcément des partenaires institutionnels, c'est aussi quelqu'un qui va m'avoir prêté tel ou tel accessoire, qui mm-hmm. va m'avoir permis de faire des photos dans la cour de sa maison. Voilà. Donc j'ai essayé de contacter tout le monde. J'ai pas pu contacter, j'ai pu contacter tout le monde, mais j'ai pas eu les retours de tout le monde, pour être précis, mais mm-hmm. je pense quand même qu'une grande majorité des gens qui ont été photographiés et qui sont dans ce livre seront présents. Et la volonté qu'on a eue avec l'Institut français, parce que l'Institut français a joué un rôle important dans cette publication par son soutien financier, il faut bien le dire, un livre ça a un coût, mm-hmm. et l'éditeur ne peut pas prendre tout à sa charge. Donc l'Institut français a vraiment été un partenaire privilégié. Et moi, dès le départ, lorsque j'ai évoqué cette idée, il y a eu cette volonté commune de l'éditeur au départ et de l'Institut français de garder une trace de ce travail, mm-hmm. et de permettre à ces photographies d'exister aussi autrement. Mais moi, de suite, moi, je leur ai dit ce qui serait bien et ce qui me semblerait vraiment à la fois la moindre des choses et puis légitime, c'est qu'on puisse organiser un moment lors de la présentation où on va remettre en fait mm-hmm. un exemplaire de ce livre à tous les modèles et tous les partenaires qui ont été là. Ceux qui seront présents mm-hmm. voilà, repartiront avec un exemplaire de l'ouvrage.
Alors nous revenons sur le livre. Oui. Nous avons combien de pages? Est-ce que ça a été disposé selon, comme vous l'avez dit, selon l'histoire ou c'est en pêle-mêle?
Non, Là, c'est plus un travail éditorial avec l'éditeur et mmh. Le graphiste. Mmh. Mais j'ai cette chance-là de pouvoir affirmer et revendiquer des choix personnels. Mmh. Et généralement, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas dans une démarche commerciale, on n'est pas dans une démarche où on va essayer de faire un produit marketing, non. C'est vraiment un livre sans prétention, mais qui a été bien imprimé, qui a été fait dans les règles de l'art, mm-hmm. et donc où l'auteur que je suis a eu toute sa liberté, c'est-à-dire que c'est moi qui ai choisi la couverture, c'est moi qui ai choisi l'ordre des photos, mm-hmm. c'est moi qui ai choisi même les photos, parce qu'on a sélectionné. C'est un livre où il y a, je crois, 37 photographies à l'intérieur, alors qu'il y en avait une cinquantaine de réalisées, donc mm-hmm. il a fallu faire des choix.
Des choix, oui.
En termes de pagination, on voulait aussi qu'il n'y ait pas plus d'une photo par page, c'est-à-dire que toutes les photos sont plutôt en grand format, mm-hmm. certaines en pleine page, mais en tout cas, il n'y a qu'une photo par page. C'est un livre qui fait 21 sur 28 cm, donc mm-hmm. c'est un bon format déjà pour un livre de photographie. Et sur un beau papier, mm-hmm. voilà, on a préféré faire un livre qui soit pas, ouais, il n'est pas énorme, il fait 64 pages, mais avec une couverture cartonnée, vous voyez déjà, ça donne un livre qui est un objet, oui. Vous voyez ce que donc oui. On a préféré, par rapport au budget dont on disposait, faire quelque chose qui soit qualitatif, mais sans pour autant être exhaustif. On ne voulait pas mettre forcément toutes les photographies, on voulait que ça soit une sélection, mm-hmm. et qui soit le plus représentatif du travail. Thank you.
dernière partie de votre émission de ce soir, si on en parlait. Nous sommes toujours avec notre invité, Bernard Brisé, il est photographe professionnel. Alors, nous revenons à vous, cher invité. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez l'évolution future de votre travail photographique après cette présentation ?
Disons que cette présentation à Lomé, comme je vous disais tout à l'heure, c'était importante qu'elle ait lieu en premier. Mm-hmm. Mais j'espère que ce travail va vivre aussi en France et ailleurs. Déjà, j'ai pas mal d'expositions mm-hmm. qui sont programmées pour l'automne et la fin de l'année oui. sur Bordeaux et la région bordelaise. Mm-hmm. Donc ça, déjà, c'est important parce que pour moi, ce travail n'a d'intérêt que s'il est vu et partagé par le plus grand nombre et sur nos deux territoires et nos deux continents. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, j'espère, mon projet pour le début 2025, ça serait de pouvoir montrer ce travail dans une galerie sur Paris, puisqu'il y a cette image d'Épinal, cette image carte postale de la Tour Eiffel qui est quand même le sujet, un leitmotiv de toutes ces images. J'aimerais bien qu'il y ait cette possibilité-là aussi, ça aurait du sens. Mm-hmm. Et puis après, voilà, un projet qui se réalise, qui se finalise, il amène souvent d'autres idées, d'autres projets, mm-hmm. et c'est un effet boule de neige. Comme ça. Enfin, moi, je travaille très souvent comme ça. Je me rends compte qu'en terminant un projet, mais généralement, les dernières images de ce projet vont déjà faire pressentir ou amorcer celles qui vont suivre. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai pas mal de projets pour l'avenir et d'autres projets, notamment avec Togo et Lomé. Et voilà, la vie continue et c'est ça qui est magnifique.
Vraiment. Alors, pour ceux-là ou pour ceux-là qui nous écoutent ou bien pour ceux-là qui s'intéressent à la photographie en général, est-ce que vous avez un mot pour eux ?
Oh, simplement être curieux. Être curieux, voilà, c'est la curiosité, c'est sans doute une qualité première, je crois, pour se nourrir, pour apprendre. Voilà, être curieux de tout, mm-hmm. ne pas avoir peur de poser des questions qui peuvent paraître ridicules, s'intéresser aux gens, s'intéresser aux cultures. Voilà, être curieux, tout simplement, je crois que c'est la curiosité qui amène cet intérêt que l'on porte sur l'autre, sur ce regard que l'on porte sur l'autre. Mm-hmm. Et essayer de porter toujours un regard bienveillant. Et généralement, voilà, ça n'apporte que des choses positives.
Et pour ceux-là qui viendront demain pour votre présentation, un mot à leur endroit déjà.
Mais déjà, je serai content de les rencontrer. Mm-hmm. Je serai content de partager ce moment avec eux, de leur présenter cet ouvrage, qu'on présenter quelques photographies qui seront... On aura trois tirages photographiques d'art qui seront présentés aussi dans ce cadre-là. Mm-hmm. Et puis surtout échanger. Voilà. Échanger, être à l'écoute. Comme je vous disais, être curieux à tout moment. Mm-hmm.
Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Votre mot de la fin à ceux-là qui vous écoutent.
Simplement dire que voilà, j'ai été très très heureux de partager cette expérience. Mmh. Humainement, ça a été d'une très très grande richesse. Voilà que moi je crois beaucoup à cette notion d'identité dynamique, d'identité plurielle. Nous nous construisons continuellement. Il faut savoir aussi relativiser certaines choses pour avancer. On doit être conscient, avoir une certaine lucidité sur nos histoires communes, mais aussi sur notre potentiel. Mm-hmm. Moi, je crois beaucoup... après, ce n'est pas de moi. Hein, je suis un grand admirateur d'un écrivain, poète, philosophe, martiniquais, Édouard Glissant. Mm-hmm. Et il parle de mondialité et de culture dynamique. C'est de lui que vient ce terme. Mm-hmm. Il oppose justement cette notion de mondialité avec la mondialisation. La mondialisation, c'est quand on impose quelque chose et qu'on devient consommateur. La mondialité, c'est au contraire quand on va quelque part sans esprit de conquête, mais dans une volonté d'apprentissage et de partage. Mm-hmm. Et donc, moi, je suis partisan de ça. On a tous à apprendre les uns des autres. Mais le tout, c'est de le faire, voilà. Dans sans condescendance, sans... À partir du moment où ça arrive quelque part, moi j'ai eu cette chance de beaucoup voyager. Mm-hmm. Pour conclure, je vais vous dire cette petite chose.
Oui.
J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et quand vous avez quelque part, que vous avez le sourire, que vous dites bonjour, vous, généralement, les portes s'ouvrent. Rien que ça. Voilà.
Et voilà, donc nous remercions notre invité, Bernard Brisé. Il est, je le rappelle, photographe professionnel français et il sera du côté donc, de l'Institut français du Togo demain samedi à partir de 10h30. Merci à lui d'être passé partager avec nous les secrets de cette œuvre enrichissante et nous attendons en tout cas avec impatience de voir comment le travail continuera à évoluer et à bien sûr inspirer. Rendez-vous donc, je l'ai dit tantôt, demain, chers auditeurs, néophytes, amateurs de la photographie, pour découvrir cette œuvre, la présentation de cette série photographique dénommée Lomé Paris et surtout encourager l'artiste Bernard Brisé. Alors, je vous laisse donc en compagnie de cette mélodie spécialement choisie par l'invité encore une fois et je vous souhaite une très bonne suite de soirée. Ciao, ciao.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.